Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Jacques Tirouza Mapendano. Il a été chef des services des télécommunications à la présidence sous Laurent Désiré Kabila. Actuellement, il est enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme, ISAU en sigle. Jacques Tirouza, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Capi.
Merci bien. Bonjour Kelly. Je suis très content aussi de m'avoir invité. Et c'est la première fois que j'arrive ici. Je suis vraiment très content.
Avec vous, dans cet entretien de tout à l'heure, on va parler de votre personne. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs qui nous suivent en ce moment. Vous allez nous parler de votre travail à la présidence sous feu Laurent Désiré Kabila. Je l'ai dit, vous étiez chef des services des télécommunications. Vous nous direz comment vous avez rencontré Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui vous avait poussé à le suivre dans sa lutte et même un peu des moments sombres que vous avez passés après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est tout à l'heure dans cette émission. Mais avant, si on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Oui. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Bukavu, à Birava, le 24 janvier 1973.
Vous avez grandi, vous avez étudié?
Oui, j'ai étudié l'école primaire à Birava, à la paroisse de Barnabit. J'ai fait le secondaire à Nyamokola, Institut pédagogique de la place aussi, c'est une école des Pères Barnabites aussi, c'est comme une antenne de Saint-Paul Kitumaini. Et c'est ça l'école qui nous a formés. Et après ça, je suis parti faire les langues. J'ai fait l'anglais à l'ISP Bukavu. Et quand on était en première licence, la révolution a commencé. La guerre de la libération.
Vous avez abandonné vos études?
Nous avons abandonné les études, je n'étais pas seul, plusieurs de nos collègues aussi ont abandonné.
On parle de vous, vous avez abandonné pour rejoindre la rébellion?
Exactement, pas la rébellion, mais la libération, parce que déjà on était actifs dans les mouvements de l'UDPS, de la jeunesse de l'UDPS au niveau du campus, oui. Et à tout moment, on n'aimait pas les injustices, on n'aimait plus vraiment vivre la dictature mobutienne. Et un vent nouveau qui a soufflé, c'était ce vent-là qui venait nous libérer. Et la curiosité de la jeunesse, parce qu'on était encore trop jeunes, a voulu que nous puissions emboîter les pas et suivre le mouvement de la libération jusqu'ici à Kinshasa.
C'était pas un risque que vous aviez pris en ce moment-là, parce que vous ne connaissiez presque pas grand-chose sur ce mouvement qui arrivait, à part les rumeurs qui circulaient à gauche, à droite, mais vous avez accepté quand même de vous lancer, oui, d'aller avec eux.
Un esprit de sacrifice pour le peuple. Étant la jeunesse, on ne pouvait que faire un pas avec les autres. Et on était vraiment obligés, parce qu'à cette période-là, personne ne pouvait parler. Ce n'était pas nos parents qui pouvaient encore parler. C'est maintenant qu'il fallait que nous, intellectuels, nous puissions prendre le devant. Et cette dynamique au niveau de Bukavu, surtout à l'ISP Bukavu et l'ISDR, beaucoup d'universités, d'écoles supérieures de la place, la jeunesse avait pris la destinée du peuple. Et nous étions parmi les gens qui étaient engagés à pouvoir prêter main forte à toute personne qui était capable de libérer le peuple.
Et donc vous n'aviez même pas besoin du point de vue de vos parents, de la famille?
Oui, on n'avait pas besoin parce qu'ils ne pouvaient pas accepter, parce qu'on était encore en train d'étudier, ils nous disaient étudier.
Après
étudier.
Tous les sacrifices que les parents ont fait, payer les Minerval, et puis vous décidez un jour d'arrêter pour rejoindre le mouvement de libération.
Oui, nous avons rejoint le mouvement parce qu'il fallait à tout prix avoir la paix, avoir une destinée. On ne savait pas pourquoi on étudiait, parce qu'on ne savait pas si on allait où, parce que c'était ça notre combat, que nous puissions voir la destinée de notre peuple et de nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons emboîté les pas à Laurent Désiré Kabila, qui a rassuré le peuple qu'il va libérer le peuple. C'est la chose qui a été faite.
Et là, c'est en 96, lorsque vous rejoignez le mouvement de libération?
Oui, c'est juste qu'on nous a... on était en première licence à Bukavu. Et le mouvement continué de Uvira jusqu'à Bukavu. Bukavu est tombé, nous avons fui. Nous sommes retrouvés à Goma. Goma est tombé, nous étions à Goma. Et c'est là où j'ai fait ma première formation idéologique. Parce que finalement, on a vu que les choses étaient sérieuses. Et nous sommes dit qu'il fallait comprendre quelque chose. Qu'est-ce que la FDL? Quel est leur combat? Est-ce que vraiment ils vont nous amener à la libération comme on voulait de tous nos voeux?
Mais pourquoi vous avez fui lorsqu'ils sont arrivés à Bukavu alors que c'était votre souhait de voir ce régime, le régime de Mobutu partir ou tomber?
Oui, le premier réflexe, c'était d'abord de fuir et comprendre ce qui nous arrivait. À l'époque, le mythe de Mobutu, c'était inévitable pour tout le monde. Et quelqu'un qui se disait qu'il pouvait vraiment changer les choses, tout le monde ne pouvait pas y croire. Et surtout dans le monde de Sud-Gentine, on ne pouvait pas y croire. Aussi parce qu'il y avait aussi des forces étrangères. On croyait finalement, comme tout le monde, que c'est une agression.
À Goma, vous recevez votre première formation idéologique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle consistait en quoi cette formation?
C'était une formation nous expliquant les objectifs de l'AFDEL. C'était une formation qui nous a vraiment aguerris en nous disant que vraiment la guerre qui est en train de se mener, c'était une vraie guerre de libération. Et que,
malgré la présence des forces étrangères?
Oui, on nous a tout expliqué, que ce sont des partenaires, des soutiens, et puis qui pourront partir après. Et il fallait que les enfants du Congo puissent aussi s'y joindre aux forces de libération pour que les choses se passent bien.
Vous avez suivi juste une formation idéologique, pas des formations militaires?
Nous avons suivi une formation qu'on appelle des cadres politico-militaires à l'époque. C'était une formation des cadres, juste de sensibilisation de toute la nation pour qu'ils comprennent que c'est vraiment une guerre de libération.
Et après cette formation, vous aviez vraiment cru en Laurent Désiré Kabila, vous aviez vraiment cru qu'il était cette personne qui allait faire tomber le régime de Mobutu?
Oui, après cette formation, c'était un déploiement direct. Donc nous étions dans les villages les plus lointains, accompagnant les forces et peut-être arrivant le premier pour essayer de convaincre et de faire comprendre la population que c'est vraiment une force de libération qui arrive et que cette force a besoin du soutien de tous les peuples qui en avaient déjà marre avec la souffrance et tout ce qui s'est passé dans le pays. Et c'est ainsi que nous étions à tout moment rappelés et nous avions évolué comme cela.
Jusqu'au jour où Kinshasa est tombé?
Oui, jusqu'au jour où Kinshasa est tombé, mais moi, j'ai été vite rappelé parce que j'étais très connu pour avoir enseigné l'anglais à Bukavu comme à Goma. J'étais parmi les meilleurs enseignants du cours d'anglais dans les écoles secondaires.
Ah, vous donniez aussi cours?
Exactement.
Donc, vous étiez étudiant et vous donniez en même temps cours?
Donc, j'étais en première licence quand Bukavu est tombé. Nous avons fui vers Goma. Et de Goma, les temps que j'ai fait là-bas, j'ai donné cours. Mais après ça, j'ai fait la formation idéologique pour comprendre c'était quoi les objectifs de l'AFDEL. Et quand on a remis nos dossiers... On a constaté que j'étais quand même très important à pouvoir travailler aux côtés du président. Et c'est ainsi que mon dossier a été pris rapidement.
Vous avez été rappelé à Kinshasa?
Non, nous sommes à Goma.
Là, vous êtes à Goma, vous dites
oui,
que vous avez été rappelé.
Parce que le quartier général, maintenant, on a fait longtemps à Goma. Et il fallait asseoir une administration et continuer à libérer Kisangani, libérer toutes les autres provinces comme on a continué. Et c'est là où on a fait le premier bureau administratif et le service des centres de communication présidentielle a existé, c'est-à-dire depuis 97, parce que nous avons été interviewés, engagés normalement une équipe de 4 personnes, tous des étudiants de l'ISP Bukavu, anglophones, collègues, et nous avons prêté main forte au président dans le cadre d'interprétariat, dans le cadre de gestion des communications étrangères et internes.
Gestion des communications étrangères et internes, ça veut dire
Ça veut dire qu'on recevait des communications qui viennent de l'extérieur, souvent c'est en anglais, et qu'il fallait
traduire.
Souvent il y avait des fax qui tombaient en anglais, ou d'autres messages à faxer, et tout ce rôle-là, on a joué au début là. On pouvait à tout moment éviter les ministres, disons à l'époque c'est les commissaires, et chacun dans son domaine pouvait à tout prix faire ses communications ou bien faire des échanges avec notre centre qui était là.
Vous receviez beaucoup de courriers, beaucoup de fax?
Beaucoup de fax.
C'était
un gros travail. Et puis ce qui fonctionnait 24 sur 24 heures, on devrait faire des shiftings à tout moment parce que ça servait presque tous ceux qui faisaient le travail autour du musée.
Et comment vous êtes devenu finalement chef de service de communication?
On n'était pas stable parce qu'on suivait les pas. À tout moment qu'il y a les opérations, on était en train de suivre. Quand il y a du travail à faire, nous déplacions et nous allions sur terrain avec le musée parce qu'on avait sa valise satellitaire. À tout moment, les communications qui tombaient devraient être formées. Et à tout moment, on était toujours collés avec lui jusqu'à ce qu'on est arrivé ici à Kinshasa. Passant par Lubumbashi, on a fait longtemps. Et de là, on est venu à Kinshasa. On a ouvert maintenant un grand centre, un grand bureau. Et on devrait maintenant gérer tout ce qui est télécommunication. Vous imaginez un anglophone qui doit gérer les télécommunications. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui, je m'imagine un peu.
Et tout ça sur instruction du musée. Et là, coup de chapeau, c'est vraiment un héros national parce que il connaissait, nous guidait, comment travailler, comment recevoir les communications, comment transmettre les rapports, comment causer, comment...
C'est lui-même tout ça, qui lui-même, nous a appris ça, qui lui-même, nous a formé.
Toute la politique de la télécommunication, lui-même prenait, il nous donnait les injonctions, il donnait les directives et tout ça.
Mais il avait une connaissance sur ça et ses connaissances en télécommunication.
On a constaté que vraiment c'est un héros. Il avait une intelligence terrible, une expérience indescriptible et nous avons beaucoup appris. Et nous avons appris la télécommunication à partir de ce moment. On a commencé à gérer les équipes techniques de télécommunication pour les installations internes et de communication interne. Et on a commencé à comprendre qu'il y a la télécommunication, l'OCPT qui existe pour tous les pays, et les communications internationales qui doivent tomber par Enacelsat. Et plus tard, la communication mobile, c'est-à-dire maintenant les portables. Et grâce à lui toujours, nous avons suivi en commençant par Telecel à l'époque. Telecel qui existait et qui était géré à l'époque de Mobutu. On a rencontré des numéros Telecel laissés par les pouvoirs partant. Et c'était des numéros de l'État qu'il fallait récupérer, identifier et pouvoir distribuer aux cadres qui étaient en train de travailler. Mais alors on a rencontré qu'il y avait beaucoup de dettes. On ne payait rien. C'était terrible et la première...
La présidence a payé toutes ses dettes?
Oui, parce que Mouzet ne voulait pas de dettes. Mouzet ne voulait pas de dettes, il voulait à tout prix payer. Et il nous a envoyé maintenant notre service. Nous avons composé des équipes de pouvoir identifier d'abord tous les numéros de l'État qui sont été à Telecel et puis réglementer les consommations parce que à l'époque c'est vraiment du désordre, il y avait trop
de consommations. Vous avez récupéré tous les numéros de l'État?
Tous les numéros de l'État.
Que vous avez redistribué au cadre du nouveau régime?
Oui, en changeant les numéros, en suivant aussi la facturation. On devrait, parce que c'était ça les directives du musée, il ne fallait pas dépenser l'argent comme ça, non. Il faut que l'argent serve le peuple. Et on a payé d'abord toutes les factures. À l'époque, je me souviens, toutes les factures, on les a épurées en cash. Donc, si Marcel Moma était encore vivant, qui gérait? Paix à son âme, mon ami Marcel, parce que c'est lui qui était à Telecel à l'époque. Et c'est lui qui nous facilitait toutes ces démarches, parce que c'est lui qui était affecté au numéro de l'État. Donc, on a tout payé. Et on a commencé maintenant à réglementer les consommations. Et on a diminué le nombre jusqu'à ce que les communications...
Vous avez diminué le nombre, c'est-à-dire que vous avez bouché certaines
zones. Oui, et puis on poursuivait les autorités aussi, même ceux-là qui pouvaient utiliser abusivement...
Vous avez espionné les numéros de téléphone.
Non, c'était dans le cadre du travail, au niveau de l'État. Donc on devrait suivre tout ça à tout moment, voir la facture, parce qu'on devrait payer mensuellement. On avait un budget, on ne devrait pas dépasser le budget. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cibler tous les numéros et plafonner. On avait un terme de plafonnement. a plafonné les communications des autorités.
Ne devait pas dépasser 100 dollars par exemple.
Sur instruction du chef de l'État, on a plafonné. C'est-à-dire que vous ne devez pas dépasser tel montant.
Et ceux qui dépassaient,
Ceux qui dépassaient, on demandait qu'ils paient par leur propre poche.
Donc Laurent Désiré Kabila était très strict.
Très strict dans ce côté-là. Il ne voulait pas qu'il y ait trop de dépenses. Et vraiment, coup de chapeau à lui. Et on continue vraiment à penser à lui.
Jacques Tchirouza, si je comprends bien, votre rencontre avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila, c'était un peu grâce au dossier que vous avez déposé.
Oui, c'est
pas direct. On a lu votre dossier, votre CV. Il s'est dit, non, ça c'est une bonne personne pour moi, pour ce travail.
D'abord, je devrais être cadre de l'AFDEL à l'époque, parce que j'avais fait la formation. Et parmi les cadres, il fallait choisir les gens qui ont compris les bienfaits de la révolution et de la guerre que menait l'AFDEL. Et parmi ces gens, ils ont choisi quelques personnes qui ont fait la spécialisation d'anglais, et j'étais presque le plus jeune, mais le responsable de ce service, et que j'ai pu gérer jusqu'à même à la mort du musée.
Et donc de 97-96, disons, jusqu'en 2001, vous avez travaillé aux côtés de Laurent Désiré Kabila.
Oui, même plus tard après, j'étais jusqu'en 2012-2013.
On parle de Laurent Désiré Kabila.
Oui, jusqu'à ce moment-là, oui.
Et le jour où il a été assassiné, vous étiez présent au Palais de Marbre?
Non, malheureusement, à l'époque, j'ai terminé ma licence.
Ah, parce que vous avez continué études après.
Oui. Donc, on combinait le travail. Et puis, comme c'était une rotation, donc on était à quatre. Quelqu'un pouvait travailler le matin jusqu'au soir. L'autre le remplace. Et à ce moment, quand j'étais libre, alors j'ai profité de terminer ma licence à l'UPEN, où j'ai obtenu mon diplôme de licence.
Vous avez continué avec l'anglais?
Avec l'anglais, oui. Et le jour de l'assassinat, j'étais en train de présenter mon dernier examen. Malheureusement, j'ai été ajourné, TFE, et que j'ai pu présenter après.
Voilà. Mais lorsque vous avez appris cette nouvelle, ça vous a fait quoi,
hein? Oh, c'était très troublant, et presque c'était fini pour moi. J'ai vu que tout mon futur et tous les objectifs que je poursuivais étaient vraiment, disons, il n'y avait plus rien que je vois qui allait bien devant moi. J'ai vu un noir dans mon futur, mais comme j'avais accepté d'être combattant, j'ai accepté de me sacrifier pour le peuple, et j'ai pris courage pour dire non, je n'abandonne pas les combats.
Et
j'ai continué, j'ai poursuivi les combats jusqu'au bout. Et jusqu'aujourd'hui, je porte le peuple à cœur, je suis toujours patriote, et j'incarne tout ce que j'ai appris de Laurent Désiré Kabila en moi.
C'était une grande perte, Pompon.
Une grande perte pour moi, oui.
Et après cet assassinat, vous avez eu quand même des petits soucis avec les services de sécurité, vous avez été arrêté pour raison d'enquête.
Oui, pour raison d'enquête, ça n'a pas duré. Je suis revenu au cabinet pour continuer le travail.
Toujours dans le service
de communication. Oui, maintenant on a scindé le service. C'était maintenant dépendant de la logistique présidentielle. Et jusqu'aujourd'hui, c'est devenu une grande direction qu'on appelle direction de nouvelles technologies. Il y a maintenant des structures plus grandes. À l'époque, on fonctionnait avec des petites structures, des petits appareils, des petits moyens. Maintenant, c'est devenu une grande structure.
Mais vous n'êtes plus là. Vous avez quitté.
Oui, parce que je devrais aussi poursuivre mes études post-universitaires.
Préparez une thèse.
Oui, je suis depuis 2003. J'ai commencé par les droits de l'homme à l'UDECIN parce que je voulais avoir un master en droits de l'homme. Mais ça n'a pas allé. Aujourd'hui, je suis toujours à la chaire UNESCO à l'antenne de l'UPEN où j'ai fait la didactique d'anglais pour que je puisse étudier comment faire des programmes d'enseignement du cours d'anglais dans les écoles techniques. Comme je travaille maintenant à l'Institut supérieur d'architecture, c'est une école technique.
Alors, avant de parler de ce que vous faites actuellement, Jacques Tchirouza, on va souffler un peu.
Si, merci.
Comment vous passez vos moments de détente?
Oh, la lecture, Je suis un chercheur, je dois beaucoup lire et je dois suivre aussi les documentaires. L'Internet aussi, c'est un outil d'information et je passe beaucoup de temps à faire mes recherches.
Vous êtes marié ?
Oui, marié et père de 8 enfants.
C'est quoi votre plat préféré ?
Les machanza.
Machanza, pour ceux
oui,
qui connaissent pas, c'est quoi ?
Machanza, c'est du lait de vache parce que je suis de Bukavu, je suis mouchi de Bukavu et tout mouchi de Bukavu aime du lait. Et du lait frais, et alors le machanza avec un peu de patate douce, ça nous fait plaisir.
Le lait et les patates douces ?
Exactement, oui.
Ah bon ?
Vous aurez à goûter ça dans beaucoup de fêtes de Bashi, vous allez voir que c'est vraiment très,
très
délicieux.
Bon. Mm-hmm. Très... Qu'est-ce que vous détestez dans la vie ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie ?
Les mensonges, la méchanceté. J'aime les gens qui sont bons et justes.
Est-ce que vous arrivez d'écouter la musique ?
Oui, beaucoup de fois, oui.
Quel genre de musique vous écoutez ?
Des folklores.
Des folklores chi.
Chi, que j'adore beaucoup. La musique congolaise, les anciens succès. Mm-hmm. Et la musique religieuse, un peu de la Kidoubé aussi. La musique anglaise, comme je suis aussi dans ce... Donc je m'exerce un peu, oui, à l'eslo.
On va vous faire plaisir avec... quelque chose de chez vous, hein. William va nous proposer un folklore chi pour votre plaisir, mais également pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent du côté de Bukavu,
oui.
au sud Kivu, et tous ceux qui aiment le folklore du peuple chi. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Kabibi kabwana chezula chwaka temate merekwe ya yuntu Bembele kabwana gitenge utapata Kabijama holawe, kabijama holawe Mweke mukapuwe, mukapwana mukawe Mweke walunguwe, walungwana mukawe Mweke kabarewe, kabarara mukawe
Ya boile De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jacques Tirouza Mapendano. Il a été chef des services de télécommunications à la présidence sous Laurent Désiré Kabila. Actuellement, il est enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme. Alors, on commençait déjà à parler de ce que vous faites actuellement. Hein, vous êtes enseignant à l'ISAU.
ISAU, oui.
Vous êtes secrétaire académique de la section architecture et assistant.
Oui, assistant de deuxième mandat. J'ai déjà fait mes publications. J'ai continué à publier parce que pour avancer, il faut publier à l'enseignement supérieur. J'ai continué mes recherches et ma formation post-universitaire, le master et puis le doctoral. Voilà les objectifs que je poursuis jusque maintenant pour que je puisse défendre ma thèse d'ici là.
Mais comment vous vous retrouvez à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme alors que vous avez fini à l'UPEN?
Oui, c'est parce que je donne les cours d'anglais, je suis titulaire du cours d'anglais. J'ai aimé l'anglais technique, je m'étais déjà spécialisé. Depuis que j'enseignais à l'école secondaire, j'enseignais dans les options techniques comme à Goma, j'ai enseigné à Litige Goma, une école technique très bien connue à Goma, Litige. J'ai enseigné dans beaucoup d'écoles où je donne les cours, même les couturiers, les électriciens, les mécaniciens. Et j'ai eu le goût de me spécialiser dans l'anglais technique, qui est vraiment différent de l'anglais général. J'ai aussi enseigné l'anglais médical aux médecins, donc voilà, aux commercialistes.
Voilà. Et donc vous préférez, pour le moment, vous focalisez dans l'enseignement, restez dans l'enseignement?
Oui, je focalise sur la didactique d'anglais, spécialement les écoles techniques, parce qu'on n'a pas beaucoup de documentation, on n'a pas beaucoup de travail pédagogique qui a été fait et je voulais innover à pouvoir contribuer aussi qu'il y ait beaucoup plus une recherche approfondie dans ce domaine technique parce que c'est très important qu'un journaliste puisse apprendre son anglais comme Kelly est journaliste, quand on enseigne on doit enseigner à Kelly l'anglais des journalistes qui est différent de l'anglais des juristes qui est différent de l'anglais des architectes.
Ouais.
Voilà. Et comme cela, la méthodologie peut être la même. Peut-être un planning de programme et des publications pour soutenir beaucoup d'autres pour que l'enseignement d'anglais technique puisse vraiment avoir de la place, même à l'école secondaire. Et voilà les objectifs. Et je crois que dans ma thèse, je vais essayer de balayer et d'aller en profondeur tous ces aspects-là, pédagogiques et didactiques, du cours d'anglais technique.
Alors Jacques Tirouza, quel bon souvenir vous gardez de Laurent Désiré Kabila?
Les bons souvenirs, c'est que je ne suis que son produit. J'étais étudiant et de l'étudiant, je deviens tout de suite là, je travaille tout de suite là aux côtés d'un grand homme politique qui était déjà un héros parce que avoir ce qu'il connaissait, ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'ai appris beaucoup de choses de lui. J'ai appris le leadership. J'ai appris qu'on ne peut pas avoir peur, parce qu'à l'époque, il y avait la peur qui animait la population tout entière. pour exercer les pouvoirs. Mais avec le musée nous a démontré que le pays nous appartient, nous tous, et que chacun peut y accéder et peut y apporter quelque chose, et le pays peut bien avancer. J'ai appris qu'il faut aimer le pays, le patriotisme. Et alors il faut aussi un sacrifice. Un patriote doit défendre le pays jusqu'à sa mort. C'est ça l'exemple qu'il nous a donné.
Et vous défendez le pays comment?
Dans ce cadre-là, là où partout où je travaille, je n'ai pas seulement travaillé à la présidente à l'époque, j'ai travaillé à l'Observatoire national des droits de l'homme pendant la période de transition comme chargé des missions. On a fait beaucoup d'actions de promotion des droits de l'homme, parce qu'à l'époque, je faisais le master en droits de l'homme aussi à l'UNIKIN. Et on a beaucoup fait. D'ailleurs, en partenariat avec la MONUSCO, il y avait beaucoup de projets qu'on gérait avec la section des droits de l'homme de la MONUSCO, MONUC à l'époque. Les manifestations publiques, comment gérer les manifestations, comment faire le monitoring des droits de l'homme. Et tout cela, à tout moment que je suis dans un domaine, je sais d'exceller parce que j'ai appris l'excellence chez Laurent Désiré Kabila. J'ai appris l'honnêteté. J'ai appris le parler franche. Donc on se parle franchement. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de peur à ne pas parler. Il n'y a pas aussi de honte à écouter les autres. Mais aussi j'ai appris le travail.
Alors vous dites que vous avez travaillé aux côtés d'un grand homme politique. La politique ne vous a pas tenté un peu?
Oui, l'homme politique, je crois que c'est une bonne question pour moi. Parce que finalement je me demande si je suis un homme politique ou non.
Comment ça?
Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous le dire. Parce que je venais de dire que j'ai appris que je ne peux pas avoir peur d'exercer. Et partout j'ai exercé les fonctions. Et je vous apprends que souvent je suis le plus jeune. Mais le leadership est à moi, de manière qu'une petite chose qu'on commence, ça devient une grande direction, comme on a fait une grande direction maintenant à la présidente de la République. À partir d'un petit centre de télécommunications commencé, bien sûr sous la houlette des grands hommes, j'ai appris à croire que dans des petites choses, on peut créer de grandes choses.
Vous engagez activement en politique, c'est ça que je veux dire.
Activement, c'est trop dire. En ce moment, je suis en recherche.
Peut-être après votre doctorat.
De toutes les façons, tous nous sommes appelés à servir le pays.
Si, chacun dans son domaine.
Chacun dans son domaine. Là où je suis en train de servir le pays. Mais si... les autorités estiment que je peux assumer telle ou telle fonction parce que je dis, je travaille pour le peuple, je ne peux pas refuser parce que c'est ça, ma destinée, chacun doit être prêt à servir le peuple à un moment que le peuple a besoin de lui.
Ce sont les autorités qui doivent vous dire, faites ça, faites ici ou cela?
Jusque là, oui, parce que si le peuple ne veut pas que vous puissiez exercer.
Vous n'avez pas essayé pour dire que le peuple ne veut pas?
Essayer actuellement, c'est aller dans les voies démocratiques, c'est ça? Il faut faire, disons, les élections. Il faut devenir un député, c'est ça? Je ne sais pas si c'est ça ce que vous appelez la politique.
Pas nécessairement devenir un député ou sénateur, non. Mais évoluer, être actif politiquement, peut-être dans un mouvement politique, un parti politique.
Malheureusement, jusqu'à là, je n'ai jamais pensé à évoluer dans un parti politique. Et c'est ce que j'ai dit, j'aimerais encore être un technicien, c'est-à-dire travailler aux côtés des gens, ou bien travailler avec l'autorité, si l'autorité estime que je peux apporter quelque chose de bon.
Vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites actuellement?
Je me sens à l'aise parce que, avec Laurent Désiré Kabila, j'ai appris qu'il faut atteindre les objectifs. Mon objectif en ce moment, c'est défendre ma thèse doctorale, c'est faire les recherches,
enseigner. Devenir professeur d'université.
Oui, enseigner très bien mon cours d'anglais. C'est ça. Et j'aimerais l'assumer totalement pour que je puisse atteindre les objectifs. Et je crois servir le peuple en ce moment-là, en enseignant. Je crois que je sers le peuple.
Jacques Tirouza, nous tendons lentement vers la fin de cet entretien avec vous. Ça nous a fait plaisir hein, de vous recevoir, de recevoir quelqu'un qui a travaillé avec Feu Laurent Désiré Kabila, quelqu'un qui était proche de lui. Il était quel genre de personne? Comment il vivait avec les gens?
Non, très jovial. Vous les voyez à la télé, comment il a rendu la foule.
Ça, c'est la télé.
Oui,
mais vous qui travaillez tout le temps avec lui.
Oui, très simple. Mais qui connaît les objectifs qu'on poursuit. Il aimait que chacun fasse son travail. Il n'aimait pas que les gens puissent rester sans travail.
Alors on nous dit que c'était une personne qui s'énervait facilement.
Non.
Facilement, bien sûr, lorsque vous n'avez pas bien fait le
facilement
travail.
Facilement parce qu'il veut que le travail aille de devant. Vous voyez, avec peut-être la léthargie à l'époque, beaucoup de gens ne travaillaient pas. Et il voulait que le peuple se mette au travail, en commençant par son cabinet. Je me souviens à l'époque, les gens arrivaient au bureau à 8h, à 10h. Mais après, il a pris une décision officielle de dire que le travail doit commencer à 7h. Et il a commencé par son cabinet.
Et à 7h, tout le monde était présent.
7h, lui-même était présent. Et si vous venez après 7h,
il vous renvoie.
Oui, oui, exactement.
Et le lendemain, à 7h moins, vous êtes déjà
moins,
là.
Tout le monde est là. C'était comme ça. Mm-hmm. C'était un homme de rigueur, il voulait le travail. Il ne s'est reposé pas tant que le travail n'est pas vraiment terminé. Mm-hmm. C'était vraiment pénible.
Il n'était pas complaisant vis-à-vis de certains, non? Il traitait tout le monde de la même manière.
Oui, c'est ça. L'égalité, c'était le combat. L'égalité, la liberté, la démocratie, toutes les valeurs là que l'homme... dont l'homme a besoin pour s'épanouir, dont le peuple a besoin pour s'épanouir.
Jacques Tirouza, je rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent, partenaires d'essai, sur la fréquence FM et même sur Internet, grâce à notre site Internet, www.radiocapi.net, que vous avez été chef des services de télécommunications à la présidence sous feu Laurent Désiré Kabila. Actuellement, vous êtes enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Oui, le dernier mot, c'est vraiment désillusionner ceux-là qui croient que le héros national, M. Laurent Désiré Kabila, n'a pas vraiment joué son rôle et qu'il a mérité d'être héros. Nous qui avions travaillé avec lui, nous avions déjà constaté que finalement, il n'est pas égal à tout le monde. C'est vraiment un héros parce qu'il a incarné les qualités du héros national et nous qui étions à côté de lui, surtout dans les domaines des télécommunications. Si aujourd'hui le peuple congolais peut jouir des mobiles, aujourd'hui l'Internet, aujourd'hui on a les réseaux de communication, au moins chaque, même le plus démuni, parce qu'il nous disait, il avait déjà prédit tout cela et dit Jacques, le peuple aura ce téléphone à moins cher. Maintenant la téléphonie est arrivée au Congo. Je crois que nous sommes parmi les pays dans quelques temps seulement, nous avons atteint ce niveau-là de communication par mobile. À partir du petit centre que lui-même a mis sur place, qu'il a dirigé. Et parce qu'il nous envoyait faire le travail, par sa philosophie de gestion, voilà qu'aujourd'hui, le boom de la télécommunication est arrivé jusqu'à ce que maintenant on a même émis un vice-ministère des télécommunications. Je voulais seulement insinuer ce point-là. Je n'ai jamais entendu les autres témoins parler de ça. Mais aujourd'hui, je vous révèle que la télécommunication, c'est le réseau national. Je vous ai fait déjà l'historique, comment nous avons commencé. Mm-hmm. Et les licences, d'abord, si les autorités qui avaient commencé Vodacom, les Gilbert Nkouli, par exemple, peuvent les témoigner. Les licences qu'on a attribuées, c'était moins cher, à 10 000 dollars. Et beaucoup d'avantages donnés aux sociétés de télécommunications à l'époque par l'héros national, le musée.
Pour
qu'il encourage les investisseurs à investir dans la télécommunication.
Et pour aider les Congolais à
avoir la communication à moindre coût, parce que c'était une affaire luxueuse, la télécommunication. C'est pas tout le monde qui pouvait avoir un téléphone. Aujourd'hui, tout le monde peut communiquer à un moindre coût. Et voilà une réussite encore, et je demande à tout celui qui a son portable en main de garder une pensée pieuse à notre héros national. C'est à travers lui qu'on a pu investir dans la télécommunication au Congo. Et aujourd'hui, le trésor public aussi reçoit, je crois, beaucoup de taxes, beaucoup. Donc les caisses sont renflouées quand même
grâce à la télécommunication.
Donc c'est l'héros national qui continue dans sa philosophie de pouvoir redresser le Congo. Voilà les mobiles dans les mains de tout le monde.
Jacques Turuza, c'était un plaisir. Merci d'être venu.
Merci beaucoup, Kelly. Merci.
Et bon dimanche.
Merci pareillement.
Merci. Merci. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que j'ai recevé Jacques Turuza Mapembano. Il a été chef des services des télécommunications à la présidence sous feu Laurent Désiré Kabila. Actuellement, il est enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme. Merci à Willem Lungamba qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.